Je retiens des propos de Yannick Gervais que l'avenir de l'IMEL, à court terme à tout le moins, repose essentiellement sur le recrutement de personnel étranger. À ce sujet, il faut que les autorités gouvernementales assouplissent rapidement les procédures et donnent accès à de nouveaux bassins de recrutement dans le monde. Ce n'est là cependant qu'un des éléments abordés dans la discussion que j'ai eue avec le nouveau président-directeur général de l'IMEL.
Monsieur Yannick Gervais, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lévesque.
Monsieur Gervais, vous accédez à la présidence, la direction générale de l'IMEL à la suite du départ de Monsieur Nadeau. Ça fait des grands souliers à remplir, là.
Oui, assurément. Monsieur Nadeau était un monument. C'est quelqu'un qui était hyper respecté au niveau d'alimentation au Québec et même au Canada. Puis il a bâti toute une entreprise. Puis même, c'est ce qui invoquait un petit peu dans le message qu'il a laissé à l'ensemble des employés. Juste avant de nous quitter, ben c'est de prendre ce que lui a bâti puis d'essayer de l'amener à un autre niveau. Puis c'est ce qu'on s'est donné comme mission, l'équipe et moi, là, au niveau de l'IMEL, de continuer ce qui a été député par agent.
Vous étiez en poste par intérim depuis justement le décès de M. Nadeau et là, vous prenez les rênes. Si on parle tout d'abord de vous un petit peu, là, vous n'êtes pas un nouveau venu dans le monde de l'alimentation là, et particulièrement le secteur des viandes. C'est un secteur que vous connaissez bien, là.
Oui, c'est un secteur que je connais très bien, particulièrement depuis les 15-20 dernières années, mais même dans ma jeunesse, avec mon grand-père qui a toujours œuvré dans le monde de l'alimentation, là, puis même mon arrière-grand-père là, par rapport à l'élevage des fermes. Après ça, ça s'est continué avec la fermentière, la transformation de viande. Puis par la bande, ben, on était acheteurs de viande fraîche. C'est une chaîne que je connais très, très bien, la chaîne logistique, les différents clients, les différents intervenants. Donc oui, je gravite là-dedans depuis assez longtemps quand même.
La fermentière, c'est une entreprise qui a été acquise par Olimel et justement, c'est par cette transaction-là que vous êtes arrivé là, dans le giron de Olimel.
Oui, exactement. La fermentière a été acquise par Olimel en 2016. Donc, c'est là que j'ai fait mon entrée. J'ai commencé un peu avant la transaction à côtoyer les gens, les gens d'Olimel. Puis maintenant, on s'est rejoint beaucoup dans les valeurs de gestion, comment ils abordaient les différents enjeux. Puis au niveau de comment ils voyaient la suite des choses pour la fermentière, avec le maintien des marques, avec le maintien des opérations Trois-Rivières, de la création d'emplois, de l'investissement. Ça a commencé comme ça. Donc, j'ai opéré un petit peu toute la transition parce qu'on devait ramener l'ensemble de la production des saucisses fraîches de l'IMEL vers l'usine de Trois-Rivières. Donc, ça a débuté comme ça. Après ça, petite pause familiale après cette transition-là qui a duré à peu près 18 mois. Puis, je suis de retour chez Olimel depuis 2018, là, en mes anciennes fonctions qui étaient au niveau de la gestion de l'ensemble des opérations d'Olimel, incluant l'ingénierie, la logistique, les achats, tout ça.
Une chose qu'on peut peut-être préciser, parce qu'il y a des gens qui se posent la question, vous êtes Yannick Gervais, vous n'êtes pas parent avec Ghislain Gervais, qui est président du conseil d'administration de Solio.
Non, pas du tout. Puis moi, ça me convient, ça permet aux gens de continuer de m'appeler Yannick, puis M. Gervais, c'est M. Gervais, fait qu'il n'y a pas de confusion. Fait que non, on n'a pas de lien de parenté du tout, moi et M. Gervais.
Petite précision qui va satisfaire probablement bien des gens qui se posaient la question. Vous arrivez, Monsieur Yannick Gervais, vous arrivez à un moment crucial, un moment charnière, je pense, chez Olimel. Il y a eu des annonces toutes récentes encore, il y a à peine une semaine, une dizaine de jours peut-être, là. Par exemple, réduction des achats de porc chez Olimel. Est-ce que vous voyez ça comme arriver dans l'entreprise, à la tête de l'entreprise, pardon, en période de décroissance? Est-ce qu'on peut voir ça comme ça?
Ben, je vous dirais que c'est sûr que puis au niveau de l'alimentation, particulièrement au niveau du porc, on le sait, il y a quand même eu des cycles là, dans le passé. Puis là, malheureusement, on est dans un, excusez l'anglicisme, une espèce de perfect storm là, avec les différents enjeux géopolitiques de différents marchés, puis la pénurie de main-d'œuvre qui nous touche très fortement. Donc, c'est pas une situation qui est idéale, ça j'en conviens. Je pense que par contre, ça nous a permis de se remettre en question, de remettre en question le modèle au niveau de l'IMEL, puis ça avait été débuté dans les derniers mois. Là, c'est pas une décision qui a été prise à la légère du tout. Mais effectivement, moi, je le vois comme un moment de changement, puis un moment important qui va mettre des bases solides pour que, justement, au niveau de la suite des choses, pour les 10, 15, 20 prochaines années, ben on soit un petit peu mieux outillé pour faire face à ce genre de cycle, peut-être un peu plus baissier là, au niveau du port.
Dans le communiqué qui a été émis par Olimel, vous dites que vous souhaitez bien sûr accompagner l'entreprise, la diriger dans son développement des prochaines années. Donc, il y a encore du potentiel de développement pour Olimel, malgré le contexte difficile dont on vient de parler, là.
Bien, assurément. Bon, on est en mode solution. On revient à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises actuellement que si on avait accès à la main-d'œuvre comme on le désirait, bien, assurément que ces décisions-là auraient été peut-être prises différemment ou il aurait été prise à un niveau un petit peu moins. Donc, on est convaincu qu'il va y avoir encore des opportunités pour Olimel. Puis, je répète un peu les propos que je tenais juste avant. Moi, je pense que c'est un moment charnière. On doit bâtir l'avenir. Mais oui, on reste à l'affût de vigie pour des investissements potentiels. On essaie toujours d'être en avant de la parade au niveau des différentes technologies qu'on utilise. Donc, ça va se poursuivre. Là, on ne le voit pas comme une fin en soi. Je le disais tantôt, pour nous, c'est pas structurel au sein de l'entreprise, mais c'est très conjoncturel là, ce qu'on vit présentement.
Si on met de côté les difficultés de marché, parce que, en fait, les marchés internationaux particulièrement, c'est toujours fluctuant, là. Il y a toutes sortes de contextes qui vont amener des difficultés ou des ouvertures, des opportunités, tout ça. Si on met ça de côté, si vous aviez demain matin 1000, 1500 employés de plus, le portrait changerait, les perspectives à court et moyen terme changeraient?
Oui, assurément que ça changerait. Je vous dirais que l'opportunité qu'on serait en mesure de capter ou la croissance qu'on serait en mesure de capter ou même l'optimisation de nos capacités qu'on désirait, parce que on le voit malgré l'annonce qu'on a fait, là, nous, c'est pas notre désir profond d'opérer des usines à 75% ou 80% de la capacité pour laquelle ils ont été bâtis. Donc, si on avait accès à cette main-d'œuvre-là, de un, vous venez de parler de certains marchés internationaux, c'est des marchés qui vont toujours être importants pour nous. Par contre, ce qu'on vise, c'est de la valeur ajoutée. Donc, c'est d'être capable de sortir du marché de commodité un petit peu plus, être moins tributaire de ce marché-là, mais d'être capable de se différencier en offrant des produits qui vont être préemballés, des produits qui vont être désossés, des produits qui vont être valorisés différemment. Donc, c'est l'objectif de le faire. C'est l'objectif de le faire sur les différents marchés, mais c'est l'objectif de le faire aussi sur le marché domestique.
En plus de la gestion de l'entreprise, là, qui est votre mandat premier, si on veut, vous allez devoir jouer un peu de la politique, là, parce que beaucoup, la question de main-d'œuvre, ça relève de décisions politiques, là. Il y a des pressions que vous souhaiteriez exercer, effectivement, pour que des choses débloquent, là, par exemple, pour la venue de travailleurs étrangers?
Bien, sûrement. Il y a eu du mouvement, là. Je vous dirais qu'il y a eu de la belle écoute. On a eu la chance de discuter avec certains intervenants au niveau politique. Puis, on voit que les gens comprennent la réalité. On a eu, je me répète, mais quand même des belles annonces, là. Le seuil de travailleurs étrangers temporaires qui est passé de 10 à 20 au niveau du programme pour les deux prochaines années. Ça va assurément aider. Puis, nous, ce qu'on se donne comme mandat, au-delà des pressions qu'on peut faire au niveau du gouvernement, bien, c'est qu'on doit quand même faire notre part là-dedans. Puis, je vous dirais, on reste pas immobile là, au niveau de la main-d'œuvre. On tente de trouver des solutions, de bonifier notre rétention. On s'adresse à nos employés, pose des questions. Pourquoi les gens restent? Pourquoi les gens quittent? On essaie d'optimiser l'ergonomie au niveau des usines. Donc, oui, on se doit, puis le gouvernement se doit de faire sa part pour nous aider parce que c'est une situation qui est vraiment pas facile. Mais de l'autre côté, il faut s'assurer qu'à l'interne, bien, on fait tout ce qu'on peut là, pour réussir à aller chercher des travailleurs puis rester attractif comme entreprise, puis je dirais au-delà de ça, même comme industrie, là, on doit se poser les bonnes questions là-dessus.
Je ne sais pas si je m'avancerai trop en vous disant ça, mais je pense que vous êtes, chez Olimel, impliqué actuellement, ces jours-ci même, dans des discussions de haut niveau là avec des représentants du gouvernement du Québec pour des mesures particulières qui pourraient être prises pour le début 2022. Est-ce que je me trompe?
Non, exactement. Il y a des belles choses qui se travaillent. Là. On va souhaiter. Il y a eu même certaines parties d'annonce, on peut dire ça. Donc, on va voir là, comment ça va s'opérer, mais je dirais que sans rentrer dans les détails de ce qui se discute, de notre côté, on est déjà en mouvement, puis on souhaite que ça se concrétise, parce qu'effectivement, ça aiderait, en tout cas, ça bonifierait les stratégies de recrutement qu'on a déjà là, pour le Québec en ayant accès peut-être à d'autres bassins au niveau des travailleurs étrangers, justement.
Et bien sûr, dans tout ça, ben, je présume que vous êtes aussi préoccupé par les questions de relations de travail, là, assurer qu'on ne se retrouve pas dans des contextes comme celui du printemps dernier, de l'été dernier, là, à Vallée-Jonction. Là.
Assurément, mais je vous dirais, ça a été malheureux quand même. On ne souhaite jamais de conflit de travail. On gère environ une quarantaine de conventions collectives. Puis si on se ramène un bon an mal an à 6, 7, peut-être 8 des fois négociations, je vous dirais que c'est quand même assez rare là, qu'on se rend jusqu'à un conflit de travail. Par contre, je vous dirais que présentement, l'objectif, nous, c'est de regarder en avant, puis l'ambiance est bonne à l'usine au niveau de Vallée-Jonction. Puis quand on regarde ce qui s'en vient en avant, puis on a réglé au niveau de notre partenariat dans l'Ulidindon, il n'y a aucun problème, c'était des discussions hyper positives. On a réglé Red Deer en début d'année, la même chose. On est dans d'autres négociations qui sont imminentes, puis tout va bien. Donc, je pense que c'est de maintenir le dialogue, puis comme je disais, même avec ce qui a pu se passer au niveau de Vallée-Jonction, ben ça continue. On n'est pas fermé jamais à regarder des façons d'améliorer les choses, autant pour nous comme entreprise que pour nos travailleurs.
En terminant, M. Gervais, quel message pourriez-vous passer ou envoyer aux producteurs de porc, aux éleveurs de porc du Québec, qui, il y en a plusieurs là, qui se sont montrés assez inquiets, justement, de la réduction des achats de porc annoncés par Olimel? Quel message vous leur enverriez?
Bien, en fait, vous l'avez dit, là, on est quand même, du 30 novembre, voir une audience au niveau de la régie, là, fait qu'on ne veut pas rentrer nécessairement dans l'ensemble des détails. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on comprend la situation. Puis je répète un peu les propos que j'ai tenus en début d'entrevue. Là, c'est pas une décision qui a été prise à la légère. Ça a été mûri, ça a été réfléchi. On est arrivé avec des faits, on est arrivé avec vraiment des calculs qui étaient précis. Puis tout ce qu'on souhaite, puis on l'a dit d'entrée de jeu, puis quand on a fait on a eu les pourparlers avec les éleveurs, c'est que si on réussit tout le monde ensemble, j'inclus le gouvernement, puis je nous inclus là-dedans, d'avoir un meilleur accès aux travailleurs, ben on souhaite être capable d'atténuer cet impact-là. Puis c'est toujours ce qu'on a souhaité. La décision, on l'a prise, mais on sait à quelle vitesse ça peut changer dans notre domaine. Ben si on est capable d'atténuer l'impact ce printemps, parce que ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, on a ramené les travailleurs au niveau des usines, mais ça va nous faire plaisir de revoir cette position-là. Là, parce que c'est pas pris. Je me répète, à la légère ou de gaieté de cœur. Quand on prend ce genre de décision-là, parce que je le disais tantôt, on a quand même construit des investissements qui sont importants. On a des ressources pour gérer des usines, bon, que ce soit 30, 35, 40 000 têtes abattues par semaine. Ben, il n'y a rien d'intéressant pour nous autres en tant qu'entreprise d'en abattre 28 ou 24 000. Non.
Bien, M. Yannick Gervais, merci beaucoup pour tous ces détails. Encore une fois, félicitations et puis bon mandat à la tête d'Olimel et puis au plaisir qu'on se reparle bientôt.
Bien, merci beaucoup, c'est très gentil.
Au plaisir, bonjour.
Bonjour.
Ici Lionel Levac. Il y a donc au moins deux choses prioritaires à surveiller au cours des prochaines semaines. Premièrement, les audiences de la Régie des marchés agricoles, où il sera question de volume de production et de répartition des porcs issus des fermes québécoises. Aussi, en début d'année 2022, probablement, Québec pourrait annoncer des mesures innovatrices, pourrait-on dire, en ce qui concerne le recrutement à l'étranger et dans lequel Olimel met beaucoup d'espoir. Au revoir.